Attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2, 1.
La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Jeudi 27 novembre 2025, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle bonne idée. Dernière chance pour tenter de gagner 2 places pour une des soirées des rencontres transmusicales au Parc Expo. Ça se passe les 4, 5, 6 décembre prochains. Je le redis une dernière fois, parce que vous avez jusqu'à dimanche minuit pour jouer, c'est maintenant. Donc, pour le faire, vous aurez besoin d'un mot de passe. Lafkane, est-ce que tu peux nous dire le mot de passe, s'il te plaît ?
Chenille.
Mais oui, chenille. Il y en a une sur la petite affiche des trans cette année. Et puis, bah, je trouvais que c'était une petite allégorie avec les artistes émergents de ce festival qui deviendront papillons dans quelques années, sûrement. On n'en doute pas. Donc, rendez-vous sur c-lab.fr pour choisir le bon mot de passe. Les soirées attribuées aux gagnants et gagnantes seront tirées au sort. J'en profite aussi pour vous dire que nous, on y sera au Transmusical avec Syllab le samedi 6 décembre. Dès 20h au Parc Expo Hall 4. Donc, soit vous pouvez nous voir en direct, soit nous écouter sur le 88.4. Tout de suite, le flash de Marion.
Terrible incendie à Tapo dans le nord de Hong Kong. Le feu s'est rapidement propagé dans 8 immeubles résidentiels abritant près de 2000 logements. Le feu est à présent contrôlé, même s'il n'est pas encore éteint dans l'ensemble des immeubles. Pour le moment, les autorités ont recensé 65 morts. 250 personnes sont toujours portées disparues. L'origine de l'incendie reste pour le moment inconnue. Mais des premières hypothèses émergent, les bâtiments sont entourés d'échafaudages en bambou, ce qui aurait accéléré la propagation des flammes. Attaque à l'arme à feu. Deux membres de la garde nationale ont été ciblés par des tirs en plein cœur de la ville de Washington. Le suspect est un migrant afghan entré légalement sur le sol américain via le régime d'asile humanitaire établi par l'administration Biden. Le président Donald Trump a qualifié cette attaque d'acte de terreur et n'a pas manqué de remettre la faute sur l'administration de son prédécesseur. Le débat sur l'intensification de la surveillance des migrants semble reprendre de plus belle. Les deux victimes se trouvent dans un état critique, a indiqué Cash Patel, directeur du FBI. Coup d'État en Guinée-Bissau. Hier, des militaires ont annoncé avoir pris le contrôle du pays. Cette attaque intervient alors que la Guinée-Bissau attendait les résultats de ses élections présidentielles. De son côté, le président sortant Umaro Sissoko Embalo a été arrêté et emprisonné. Lafkane est avec nous pour analyser cette situation.
L'état-major est bien traité. Voilà comment les militaires putschistes décrivent la situation du président Umaro Sissoko Embalo. L'homme de 53 ans était à la tête de la Guinée-Bissau depuis 5 ans et espérait décrocher un second mandat. Les résultats des élections présidentielles devaient sortir aujourd'hui, donc problème. Hier, le président sortant Embalo est introuvable. Après quelques heures, il donne des nouvelles aux médias France 24 et Jeune Afrique. « J'ai bien été renversé, je ne peux pas trop parler car sinon ils vont me confisquer mon téléphone, je suis actuellement à l'état-major. » Arrêté dans le palais présidentiel de Guinée-Bissau hier midi, le président dit ne pas avoir subi de violence jusque-là. En parallèle, le groupe militaire à l'origine du putsch a aussi pris la parole depuis le siège de l'état-major à Bissau. Il avait notamment annoncé un couvre-feu et une fermeture des frontières.
Mais dans ce cas, qui a pris le pouvoir en Guinée-Bissau ? Qui sont ces militaires ?
Ils se font appeler le Haut Commandement Militaire pour la Restauration de l'Ordre. Il s'agit d'un groupe d'officiers avec à leur tête le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Orhan Ntam. Et pour les Bissau-Guinéens, Ntam n'est pas n'importe qui. Celui qui a dirigé ce coup d'état est en fait un proche du président emprisonné. C'est même sous le mandat d'Embalo que Ntam est promu au grade de major général. Aujourd'hui, c'est lors d'une cérémonie sobre, sans hymne national, que les armées du pays ont proclamé le général Orhan Ntam, président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau. Sur place, une sécurité renforcée et des dizaines de militaires lourdement armés. Pour l'instant, le groupe militaire annonce un gouvernement de transition long de 12 mois. Malgré tout, les raisons de ce putsch restent floues. Pendant son discours d'investiture, Ntam a évoqué un devoir commun de combattre le narcotrafic. Ce matin, le couvre-feu a été levé et les frontières réouvertes. Cependant, selon Eva Massi, envoyée spéciale chez RFI, la situation semble loin d'être pacifique. Les médias sont toujours à l'arrêt, les informations circulent peu et il reste difficile d'accéder à Internet ou de passer des appels. En plus du président Mbalo, ont aussi été arrêtés la plupart de son gouvernement, l'opposant bissao-guinéen Domingos Simoes Pereira et le rival numéro 1 du président sortant, Fernando Diaz.
Des raisons assez floues, mais un contexte géopolitique bien connu depuis des années.
Alors en effet, cette situation n'est pas une grande surprise non plus, en Guinée-Bissau comme à l'international d'ailleurs. Depuis son indépendance du Portugal en 1974, la Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État et plusieurs tentatives échouées. Mais rien d'exemplaire chez ses voisins non plus. Depuis 2020, le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée-Conakry ont aussi fait face à des putschs. En 2019, les résultats présidentiels bissau-guinéens avaient déjà suscité une crise politique, Mbalo et son opposant Pereira revendiquant tous les deux la victoire. Aujourd'hui, à la veille des résultats, Mbalo se battait désormais avec son rival Diaz. Les deux revendiquaient à nouveau la victoire avant la publication des résultats de vote. Des résultats qui resteront inconnus donc, tout comme ceux des élections législatives de dimanche prochain. À l'intérieur du pays, les voix du peuple s'élèvent, on y dénonce une tentative de manipulation. Pour le Front Populaire, une organisation d'opposition au gouvernement, il s'agit d'un coup d'État simulé visant à ne pas diffuser des résultats potentiellement négatifs pour le président sortant Mbalo. L'ancien Premier ministre Aristides Gomes, et membre du parti d'opposition PAIGC partagent le même point de vue. Pour lui, nous avions déjà des informations sur les rencontres de Sissoko Mbalo avec ses amis de l'état-major des forces armées. Nous avons appris qu'un coup d'État était prévu, il ne serait pas surprenant qu'il maintienne les chefs d'opposition en prison et finisse par libérer Sissoko Mbalo en prétendant qu'il a gagné les élections. S'agirait-il d'un coup de théâtre donc entre un président devenu impopulaire et un ancien proche ?
Merci Lafken pour ce point géopolitique. Côté international, les réactions débutent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme suivre la situation avec préoccupation. L'Union africaine, la CEDEAO, mais aussi le Portugal déplorent une tentative de briser la démocratie bissau-guinéenne. Tout se garde à vous. Le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'un service militaire à l'été prochain. Appelé service national volontaire, il ne devrait pas être obligatoire. D'une durée de 10 mois, le service comprendra une formation à la vie militaire, puis une affectation au sein d'une unité de l'armée sur le territoire national uniquement. Il s'adresse aux jeunes Français et Françaises qui ont entre 18 et 25 ans, ayant effectué leur journée de défense et citoyenneté. Les volontaires bénéficieront d'un salaire mensuel d'environ 800 euros brut et d'une réduction de 75% sur le réseau SNCF. D'ici 2035, le service espère attirer jusqu'à 50 000 jeunes. Bientôt le tome 2 du journal d'un prisonnier. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, le condamnant à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, avec la possibilité d'un aménagement de peine. Les dépenses de sa campagne en 2012 ont atteint les 43 millions d'euros, alors que la limite légale est fixée à 22,5 millions. Afin de dissimuler ses dépenses exorbitantes, l'ancien président bénéficie d'un système de double facturation. Une partie des frais des meetings était facturée à sa campagne présidentielle, tandis que le reste l'était de manière fictive à son parti. Natacha Apana remporte le prix Goncourt des lycéens à Rennes. Autrice du roman La nuit au cœur, elle a tenu à remercier les lycéens et lycéennes au téléphone. Le roman croise le destin de 3 femmes subissant des violences de la part de leur conjoint. Elle s'est dite émue par ce prix survenant quelques jours après la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nouvelle série Made in Finistère, diffusée dès ce soir sur France 3 à 22h55. Le feuilleton Les Portes du Vent nous plonge au cœur d'une famille d'agriculteurs en proie à de nombreuses difficultés économiques. Comment gérer une ferme dans un monde où la concurrence ne cesse de s'accroître ? Réponse en 10 épisodes, d'ores et déjà disponible sur le site de France TV. Vous pourrez notamment y apercevoir Sylviane Oran, talentueuse actrice et bénévole chez Silab. On l'embrasse.
Et oui, des bisous Sylviane et merci beaucoup Marion pour ce flash. Tenté toi par le service militaire, Marion ?
Pas spécialement, le SNU m'avait déjà refroidi.
Ouais, bon. C'était déjà peut-être assez. Et toi Lafken, tu vas t'engager ?
Oui, bah oui. Bah,
ça me
je vais
fait
quitter la radio pour.
Pas tout de suite s'il te plaît. C'est la fin de ce flash, on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Recevons Marie Trouvé, plusieurs bagues au doigt et vêtue d'un pull d'hiver qui a l'air tout doux. Elle est responsable de la médiathèque La Parenthèse à Gauvin et elle vient nous parler de la 3e édition du Festival BD Bulles d'hiver dont le thème cette année est « Entre deux mondes ». Bonjour à toi.
Bonjour.
Et alors pour commencer, peux-tu présenter le festival pour celles qui ne le connaissent pas ?
Alors en quelques mots, le Festival Bulles d'hiver, ça va être un moment de rencontre, un moment d'échange. Pour faire très simple, entre des auteurs de BD, auteurs et autrices, illustrateurs, illustratrices, et le public. Donc tout public, des plus jeunes aux plus âgés, ceux qui sont amateurs de BD et ceux qui ne le sont pas encore.
Et est-ce que tu peux nous dire depuis quand existe ce festival et comment est-il né ?
Alors le festival est né en 2021, donc c'était un souhait de la municipalité de mettre en place une action culturelle autour du thème de la BD. Donc une première édition en 2021, il a été décidé de le faire tous les deux ans, donc une deuxième édition en 2023, et donc cette année la 3e édition.
Et pourquoi en biennale ? Alors est-ce que c'est une histoire de financement peut-être ?
Une histoire de financement et d'organisation surtout, puisque la commune de Gauvin est une petite commune rurale, hein, 4500 habitants, donc c'est un gros projet au niveau de la commune qui engage beaucoup de monde, la médiathèque, les services techniques, toutes les équipes municipales, donc c'est vrai que c'est bien aussi de prendre le temps, de prendre du recul aussi avant de créer une édition qui pourrait être aussi... trop récurrente pour les publics. Là, ça crée l'événement et on est très contents comme ça.
Et alors, quels sont les objectifs principaux ?
Alors, l'objectif, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer une rencontre. C'est vraiment d'ouvrir la BD, de faire connaître la BD, de créer des moments d'échange avec ces personnes qu'on ne voit pas quand on lit une BD, c'est-à-dire les scénaristes, les auteurs, les illustrateurs, les coloristes aussi, qu'on oublie souvent. Et c'est vrai que c'est tout ce petit monde qui est derrière un livre qu'on va lire en une demi-heure, une heure, pour la plupart du temps. Et c'est... très très intéressant aussi pour nous de montrer tout ce travail, tous ces gens qui travaillent pour qu'on ait ce plaisir fugace de lire une BD.
Et alors si on parlait un peu plus de la programmation, est-ce que tu pourrais nous parler de cette journée du 30 novembre ? Mais alors juste avant, comment est fait le lien avec la thématique de cette année, un peu mystérieuse cette thématique ? Comment a-t-elle été choisie et qu'est-ce qu'elle signifie pour toi ou pour ceux qui ont créé l'édition de cette année ?
Oui, alors la thématique, elle a été choisie au niveau de l'équipe organisatrice, donc la médiathèque, quelques élus et puis quelques bénévoles. En fait, on s'est posé, on vient d'entendre le flash info là, je pense que on se ressent tous en ce moment entre deux mondes. De toute façon, on sent ce point de basculement un petit peu, que ce soit au niveau de l'actualité. On ne voulait pas non plus centrer uniquement cette thématique-là sur le thème politique où on voulait aussi rêver un petit peu. Donc l'entre-deux-mondes, c'est aussi ce moment entre le rêve et la réalité. Donc il y a beaucoup de fantastique dans les BD, donc c'était le moment aussi de mettre en avant ce côté-là. L'entre-deux-mondes, c'est aussi au niveau du territoire. Donc je pense à la BD, on va peut-être en reparler tout à l'heure, de Maud Bénézit qui parle de la traversée de Clarisse Kremer du Vendée Globe. Voilà, on a ce côté vraiment de découverte, d'aller vers un ailleurs, mais on est sur ce point de basculement. Donc c'est cet entre-deux-là qui nous intéressait d'explorer un petit peu.
Et le programme plus spécifiquement, comment sont choisis les auteuristes ? Y a-t-il des critères de sélection spécifiques ?
Non, le critère, l'idée c'était surtout de coller à la thématique, mais on voulait aussi quelque chose de très large. On voulait aussi que, de ne pas rester sur une thématique fermée, on voulait vraiment quelque chose d'assez accessible. Et puis, accessibilité aussi pour en termes d'âge, qu'on puisse avoir des auteurs qui s'adressent aux plus jeunes et des auteurs qui s'adressent aux adultes. Donc on a essayé en tout cas d'avoir une programmation assez diversifiée.
Et en termes de, toujours de programme, il y a plusieurs types d'événements, je crois, tout au long de la journée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ?
Oui, alors le fil rouge de la journée, c'est évidemment les dédicaces et les rencontres avec les auteurs. Donc là, le public est invité à prendre le temps de prendre un temps avec chaque invité. On a également des ateliers qui sont proposés tout au long de la journée. Donc pareil, on a essayé de faire des choses pour tous les âges. Donc ça commence le matin avec les tout petits. On fait un atelier peindre avec des bulles. En référence évidemment Bulles. Donc à partir de 18 mois, on aura des ateliers dessin. On aura même un atelier l'après-midi autour de la couleur et les émotions. Donc avec Blandine Duguay qui est son consultante en couleur. On aura aussi un moment d'échange entre deux invités qui sont Laurent Lefebvre et Stivo autour d'une table ronde à 11h. Et puis des ateliers créatifs qui seront proposés aussi tout au long de la journée en continu.
Mais je crois qu'il y en a aussi en amont, non ?
Oui, tout à fait. En fait, Bulle d'hiver a déjà commencé, hein, quelque sorte, puisque depuis lundi, on accueille les auteurs en classe, dans les classes de Gauvin, mais aussi dans les communes proches. Hein, donc, Lassie et Bollon vont également accueillir des auteurs. L'idée, c'est que l'auteur passe un temps dans la classe avec les élèves, sur 1h30, 2h. C'était plutôt 2h, d'ailleurs, cette semaine, avec un petit temps de présentation de son travail. Et puis, si possible, un petit atelier de pratique où les enfants ont pu apprendre à dessiner accompagnés sous les conseils des auteurs et illustrateurs, quand c'était le cas.
Donc, il y a des expos aussi.
Et on a des expos aussi, ouais. On a tellement de choses.
Ouais. Et il y en a une qui a déjà démarré, il me semble.
Oui, voilà, on bénéficie du prêt de l'expo Comics dans la tête d'un auteur de BD, qui parle justement de Laurent Lefebvre, du travail de Laurent Lefebvre et de son super-héros Foxboy. Laurent Lefebvre est le parrain de notre édition, donc ça faisait écho à sa présence. Et l'exposition sera présente aussi le jour J. On a également Maya Lengoust, qui est une de nos invitées, qui montrera certaines étapes de son travail aussi.
Et le jour J, alors s'il y avait un temps fort, un moment à ne pas manquer, ou deux ou trois, mais un temps fort.
Le temps fort, c'est quand même là, je pense, la rencontre avec Laurent Lefebvre et Stivo. Je pense que ça va être un point central dans la journée. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de les entendre échanger autour de c'est quoi un bon super-héros. C'est une...
Et sinon, d'autres autrices peut-être aussi parce que je crois qu'il y a aussi, j'ai vu dans la programmation, il y a vous séparez les auteurs, les autrices et aussi les indépendants. Parce qu'il y a aussi d'autres exposants que les artistes.
Tout à fait. Voilà, on a décidé aussi de laisser une place aux indépendants, qu'ils aient un espace aussi pour échanger avec le public, vendre leurs BD, les dédicacer. C'est un espace qu'on met à disposition pour eux aussi. Donc là, il y avait moins de critères dans la sélection des auteurs indépendants, mais finalement ceux qu'on accueille, et on est très content de les accueillir, vont pouvoir aussi nous parler de cet entre-deux mondes, puisqu'on aura Céline Ziouès qui parle plutôt de la filiation, Colline Chevy qui va parler des oiseaux, donc qui fait une BD avec la LPO, Cyril Jégou également, qu'on a la chance d'avoir sur la commune de Gauvin, et le collectif La Vilaine qui sera présent aussi.
Alors, difficile de ne pas évoquer avec toi l'actualité du monde de la BD, avec notamment l'annulation du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, même si ce terme n'est pas encore utilisé officiellement. Qu'en penses-tu ? Est-ce que, à ton avis, cette actualité va être abordée par les invités présents dimanche ?
Alors, je sais que c'est une actualité qui est prégnante hein, dans la tête de tous les professionnels et de la BD, et j'ai envie de dire du livre en général, parce que ça soulève quand même des problématiques... qui sont communes à plein d'autres domaines. Je trouve un peu dommage que ça entache un peu cette actualité de la BD qui est plutôt festive en temps normal. Et en même temps, peut-être que des fois, il faut percer l'abcès et puis mettre les choses à plat. Et peut-être que ce sera pour mieux renaître après de quelque chose de plus sain, en tout cas. Mais effectivement, je pense que le sujet est prégnant dans la tête des auteurs. Le festival... je crois que c'est en février, c'est un point central dans l'année d'un professionnel du livre et de la BD, donc oui. Effectivement c'est très actuel. Oui.
Et d'après toi, les artistes vont-ils aussi parler de leur statut ? Autre actualité du monde du 9e art, une grande enquête a en effet eu lieu en septembre, 10 ans après les premiers états généraux de la BD.
Oui, je pense que là, c'est pareil, ça se complète en fait. Je pense que les premiers états généraux de la BD, c'était en 2015, si je ne me trompe pas, donc oui. Ça fait déjà une dizaine d'années. On a hâte aussi de voir les résultats de cette enquête. Est-ce que les choses ont vraiment changé ? Est-ce que la précarité des auteurs a évolué ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, on a hâte de voir les résultats, mais c'est surtout que ces résultats donnent quelque chose de concret après, que ça soit une base de travail pour après... améliorer la vie, hein, tout simplement, la vie quotidienne des auteurs, illustrateurs et professionnels. Mais c'est pour nous aussi. Enfin, voilà, c'est mieux créé aussi pour le public.
Et pour revenir un peu sur le festival, donc, j'ai cru voir qu'il y avait pas mal d'auteurs qui étaient, que vous aviez vous aviez insisté sur le côté local. Il y en a même de Gauvin, je crois.
Oui. Ouais. Oui. Alors, c'était pas forcément un souhait, c'était pas forcément dans nos critères. Il s'avère qu'on a de la chance à Rennes, il y a énormément d'auteurs et autrices de qualité, donc, et qui collaient justement avec notre thématique, donc on a beaucoup de chance. Beaucoup sont du secteur rennais, on a également Sébastien Maurice qui est gauvenais, qui sortait justement une BD là en août, hein, donc ça tombait plutôt bien. Donc voilà, on profite aussi de ce qu'on a autour de nous. On a cette chance inouïe d'avoir autant de personnes de qualité autour. Donc on a que des Bretons. Ceux qui viennent du plus loin sont Gida Java qui vient de Brest et Chris qui vient du Perche.
Voilà. Et plus localement, encore pour toi, est-ce que tu as une actu que tu veux nous donner concernant ta médiathèque ?
Alors la médiathèque, la parenthèse, elle n'arrête pas de proposer des petites choses, des ateliers. Donc là, on va, après le festival qui sera quand même le gros morceau de notre année, on va passer sur les choses un peu plus vers Noël. Donc on a des comptes pour les petits le premier samedi du mois de décembre, je ne sais plus la date. Et des ateliers arts plastiques aussi qui sont proposés à tout public. Après une pause d'hiver qui sera peut-être bien méritée.
Merci à toi, Marie Trouvé, pour toutes ces infos et pour ta présence.
Merci.
Le festival Bulles d'hiver aura lieu à l'espace des Lavandières à Gauvin le dimanche 30 novembre. Il est ouvert à tous les publics, tu l'as dit, de 10h à 17h30 et il est gratuit. Profitez-en pour commencer vos achats de Noël personnalisés.
Exactement.
6h avant minuit.
Ces femmes qui faisaient l'histoire, tout est dans le titre et c'est une nouvelle chronique signée Milia.
Aujourd'hui dans la chronique Quand les femmes faisaient l'histoire, on va parler d'une femme qui n'aimait pas marcher. Elle préférait voler, littéralement. Son nom, Hélène Boucher, recordwoman de vitesse dans les années 30, époque où les avions tremblaient plus que les passagers. Imagine, t'as 20 ans, on te dit que l'aviation c'est un truc d'homme, que c'est dangereux et que ça sent l'essence et la mort. Et bah Hélène, elle est partante. Elle découvre l'aviation par hasard, fait un baptême de l'air, descend de l'avion et c'est fini. Coup de foudre. À 23 ans, elle passe son brevet de pilote et là, elle enchaîne. Voltige, compétition, entraînement, personne ne l'attend. Mais elle veut juste être pilote. Pas la pilote femme, non, juste pilote. En 1933, elle monte dans un engin qui s'appelle le Coton Rafale. C'est un petit avion bleu ciel, léger, nerveux, un peu suicidaire. Et elle adore. Et elle dit colle littéralement. En moins de 2 ans, Hélène explose plus de 10 records. Record féminin, oui. Record masculin, aussi. Elle dépasse même les 409 km/h, ce qui à l'époque était inimaginable. Évidemment, ça crée des frustrations. Des journaux écrivent « Une femme ne devrait pas aller si vite ». Alors Hélène, bah elle appuie encore plus fort sur l'accélérateur. Et elle devient une star, une vraie. Mais en 1934, en plein entraînement, son avion s'écrase. Elle avait 26 ans. La France entière est sous le choc. Elle reçoit même des obsèques nationales. Oui, nationales. Un honneur presque jamais accordé à une femme. Puis comme souvent, le temps passe. On enchaîne les guerres, les grandes histoires, et elle, bah elle disparaît des livres. Et pourtant, sans elle, l'aviation française n'aurait pas eu la même forme. Elle a prouvé qu'une femme pouvait piloter mieux, plus vite, plus fort que tout le monde. Elle a montré que le ciel n'appartient à personne et surtout pas aux hommes. Hélène Boucher n'a pas eu une longue vie, mais elle a vécu à 400 km/h. Et si on l'a oubliée, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas exceptionnelle. C'est juste parce qu'elle est allée trop vite pour que son époque la suive. Alors aujourd'hui, on la rattrape.
Merci beaucoup Milia, on espère te revoir pour un nouvel épisode de ta chronique. Et il est l'heure de vérifier si on a un message sur le répondeur, ça rime.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Alors Marion, message ou pas?
Hein? Pas de message.
C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Si par exemple, ce week-end, vous allez au festival Bulles d'hiver, bah, laissez-nous un message pour nous raconter depuis là-bas comment ça se passe.
D'ailleurs, c'est cool. Je te coupe juste 2 secondes, mais je crois qu'on a le temps.
Ouais, dis-moi.
De rajouter la petite info que Marie a oublié de nous donner tout à l'heure.
C'était quoi l'info manquante, Marie ?
C'est gentil. Grosse actu quand même cette semaine. Avant le festival, enfin pendant le festival, on accueille Chris qui est un scénariste très varié, enfin qui a fait énormément de choses. On accueille Chris à 15h à la médiathèque. Donc si vous voulez venir le rencontrer, ça sera le moment.
C'est samedi ?
C'est samedi, okay. Oui, à 15h.
Parfait. Bah, le message est passé. Merci. Donc bah, allez voir Chris, puis après racontez-nous par message. Ou sinon, bah, racontez-nous ce que vous avez sur le cœur, vos coups de peine, vos coups de cœur, vos coups de blues, je sais pas moi. Donnez-nous des idées de sujets. Bref, 02 30 96 25 35. Merci Lucas pour la technique et à lundi dans 6h avant minuit.
Si la la. La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h sur Syllab,
la radio sauvage.